Ça vient. Alors ce matin, on va parler de l'immanence de Dieu. Alors l'immanence, vous vous dites, mais ça veut dire quoi l'immanence ? L'immanence, c'est la présence, la proximité de Dieu. Et on va prendre un verset dans l'Épître aux Éphésiens, dans le Nouveau Testament, et on va lire ce verset dans Éphésiens chapitre 4. Paul, dans cette épître, nous a présenté ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a aussi présenté où est assis Jésus aujourd'hui, sa puissance, sa grandeur. Il nous a montré que nous sommes avec lui déjà aujourd'hui, assis dans les lieux célestes. Et il nous montre aussi de manière toute particulière dans cette épître la beauté de l'Église, du corps de Christ, de la famille de Dieu. Et au chapitre 4, il nous présente l'unité de cette famille que l'Esprit Saint nous donne, et il nous donne plusieurs éléments sur lesquels sont fondées notre unité. Et entre autres, il y a un verset qui est mis en avant, qu'on va lire, c'est le verset 6, donc l'immanence de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez la photo, tu peux rester sur la première. Ouais. La photo, c'est donc un bébé, et on voit les mains donc, du Père qui le tient entre ses mains. J'ai trouvé que cette image était vraiment pour moi l'image même de l'immanence, c'est-à-dire la proximité de Dieu, on peut aussi dire l'amour de Dieu qui est là. Et donc on va lire maintenant ce verset donc de Éphésiens 4, verset 6, où c'est l'apôtre Paul donc qui écrit « Il y a un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tout et partout et en nous tous. Il y a un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tout et partout et en tous. » Et dans ce verset, il nous définit la personne de Dieu sur laquelle se fonde notre foi et notre unité, parce que nous croyons à ce Dieu unique, ce Dieu unique qui est à la fois transcendant, on avait vu ça la dernière fois, c'est-à-dire qui est tout-puissant, qui est au-dessus de tout, qui dirige tout, qui contrôle tout, mais à la fois ce Dieu tout-puissant qui est au-dessus de tout, ben ce Dieu est aussi notre Père qui est proche de nous, un Dieu qui est partout ou parmi tous, et un Dieu qui est en nous et qui vit en nous grâce à l'œuvre de Jésus. Nous allons le voir encore après. Donc cette transcendance et cette immanence de Dieu qui est mise ici en lumière sont deux notions que le dictionnaire français oppose. Quand j'ai cherché ces mots, ils ont marqué que le contraire de transcendance, c'est immanence. Et quand j'ai cherché immanence, il y avait écrit le contraire d'immanence, c'est transcendance. Donc on voit qu'il y a dans l'esprit humain une contradiction entre le fait d'être tout-puissant, d'être au-dessus de tout, et de l'autre côté, d'être immanent, d'être proche, d'être tout près de ceux qu'on aime. Mais la parole, elle associe ces deux éléments de manière claire et harmonieuse et parfaite en Dieu. Ce sont deux aspects de la personne de Dieu. Et notre unité se fonde sur cette réalité. Notre unité est fondée sur un seul Dieu qui est transcendant et immanent en même temps. Alors, on va essayer de définir un peu l'immanence de Dieu. On va essayer de voir ça un peu ensemble. L'immanence de Dieu évoque sa présence et sa proximité dans sa création. Il est le Père de tous qui est partout et en nous tous. Le mot immanence vient d'un mot latin qui signifie résider dans, qui se trouve dedans. Le Dieu transcendant réside donc dans sa création. Il est présent partout. Et David exprime cette pensée de manière très simple en disant « Où irai-je loin de ton esprit ? Et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, t'y voilà. Si je me couche au séjour des morts, tu es là aussi. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. » Donc Dieu est présent partout dans sa création. L'immanence de Dieu va plus loin qu'une simple présence. L'immanence de Dieu exprime aussi une relation d'affection très forte, un lien très fort qu'on peut exprimer par l'amour. C'est-à-dire que Dieu, ce Dieu qui est près de nous, eh bien, il se soucie de sa création. Il a sa création à cœur. Il est le Père de tout ce qui existe, dans ce sens qu'il a créé toute chose et qu'il a toute chose entre ses mains. Dieu se soucie donc de sa création. Il l'a créée et il la soutient par sa parole puissante. Et aujourd'hui encore, si Dieu enlevait son immanence, le monde s'écroulerait, le monde ne pourrait pas subsister. Il prend soin de sa création. La parole nous dit qu'il nourrit tous les êtres vivants qui se meuvent sur la terre. Et Dieu la chérit, chérit sa création avec tendresse et il veut le meilleur pour elle. C'est lui, nous dit l'apôtre Paul, qui donne la vie, la respiration et toute chose. Et nous voyons par là que sans l'immanence de Dieu, le monde ne pourrait subsister. Et c'est dans Job, au chapitre 34, versets 14 et 15, que nous lisons « Si Dieu ne pensait qu'à lui-même, s'il reprenait son esprit et son souffle, toute créature expirerait d'un seul coup et l'homme retournerait à la poussière. » Alors on va maintenant un peu se promener dans la Bible pour essayer de comprendre mieux l'immanence de Dieu. Tout d'abord dans l'Ancien Testament. C'est mon premier point, l'immanence dans l'Ancien Testament. Et on va remonter à la Genèse, à la création de Dieu, tout au début. Et nous lisons donc dans Genèse 3, versets 8 à 9, des informations importantes sur la manière dont Dieu vivait avec Adam et Ève. Donc ce récit se situe après la chute. Et on lit donc « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ?» On voit dans ce verset une chose importante, c'est que dès le départ, quand Dieu a créé l'univers, dans le jardin d'Éden et qu'il y a placé Adam et Ève, Dieu était au milieu du jardin d'Éden. Il n'est pas resté loin, comme le disent certains, mais il était là, présent, avec Adam et Ève. Il se promenait dans le jardin. Et il ne faisait pas que de se promener, mais il parlait avec Adam et Ève. Il discutait, il échangeait avec eux. Un élément important aussi pour nous, où nous voyons cette immanence, cette proximité de Dieu et cet amour de Dieu qui veut être avec nous. Un élément aussi qu'on peut juste souligner, et j'aime bien ce verset, car il présente le péché et les conséquences du péché. Et il est écrit, l'homme et la femme se cachèrent loin de la présence de Dieu. C'est présenté différemment. Souvent on dit Dieu a rejeté l'homme. Souvent on dit que Dieu, à cause du péché, s'est séparé, comme si Dieu avait rejeté lui-même de son initiative. Mais là, j'aime bien parce qu'on voit que c'est le péché qui a séparé l'homme de Dieu. Et c'est Adam et Ève qui, parce qu'ils sont marqués par le péché, parce qu'ils ont choisi délibérément de désobéir à Dieu, qui se sont cachés parce qu'ils ne supportent plus la sainteté de Dieu et la transcendance et la grandeur de Dieu. Après, dans l'histoire, on avance et on va arriver au temps d'Abraham, la création du peuple d'Israël, où Dieu va créer le peuple d'Israël. Et là aussi, on voit que Dieu, malgré le péché, mais Dieu veut être proche de son peuple. Toute l'humanité l'a rejeté. Mais lui, il a choisi un homme, duquel il fera une nation nombreuse. Et il veut vivre parmi cette nation, il veut être au milieu d'eux. Et donc on lit dans Exode 3, versets 7 et 8, c'est donc au début de la Bible, hein, les cinq, c'est le deuxième livre de la Bible, dans Exode 3, versets 7 et 8, au temps où Dieu va appeler Moïse pour sauver son peuple de l'Égypte et de l'esclavage, on lit Exode 3, versets 7 et 8. L'Éternel Dieu dit, donc il parle à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Qu'est-ce qu'on remarque dans ce verset sur l'immanence de Dieu? Dieu se soucie de son peuple. Dieu se soucie des hommes, même s'ils ont péché. Il a vu la souffrance de son peuple. Et il a vu la douleur et l'oppression que lui faisaient subir les Égyptiens. Dieu n'est pas indifférent. Et Dieu, à cause de cette immanence, de cet amour qui brûle en lui, a choisi de descendre et de venir sur la terre pour arracher son peuple des griffes de la tyrannie égyptienne. Et il va choisir de marcher au milieu d'eux, d'être avec eux. Et dans Exode 13, au verset 21, un peu plus loin, on lit « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. » Dieu est au milieu de son peuple d'Israël. Il est là malgré le péché. Et il est là et il les conduit, il les dirige pour les amener là où il veut, pour les amener auprès de lui. Dans l'Ancien Testament, il y a aussi une image de Dieu qui est très forte. C'est Dieu est un berger. Dieu est le berger d'Israël. Et je pense que vous vous souvenez sûrement de ce psaume, hein, ce psaume, le psaume 23. Le psaume 23, L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et à travers cette image aussi, qui nous est donnée dans l'Ancien Testament, que Jésus va reprendre aussi, on le verra après, eh bien, on voit aussi l'immanence de Dieu. À travers le berger. Le berger qui se soucie de son troupeau, qui est avec lui, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau, qui le conduit, qui va même chercher les brebis qui se perdent. Et on lit dans Ésaïe 40, verset 11, cette image du berger, où il est écrit « Comme un berger », donc en parlant de Dieu, « il paîtra son troupeau, il le nourrira. Il prendra les agneaux dans ses bras. » Donc on voit vraiment là, l'amour et l'immanence de Dieu, hein, tout proche, qui nous porte dans ses bras. Il les portera dans son sein, à l'intérieur de lui. Et ça, c'est une préfiguration déjà de l'œuvre de Jésus. Il conduira les brebis qui allaitent. Donc celles qui sont faibles, celles qui ont des difficultés, parce qu'elles doivent allaiter, ben, il les suit aussi, il les conduit aussi. Et là, on voit vraiment, c'est une très belle image de l'immanence de Dieu déjà présente dans l'Ancien Testament. On arrive maintenant à mon deuxième point, c'est l'immanence et l'irruption du péché. L'immanence et l'irruption du péché. Qu'est-ce que le péché a changé à l'immanence de Dieu ? Premièrement, le péché nous prive de la présence de Dieu. C'est le péché qui va nous priver de la présence glorieuse de Dieu. C'est Paul qui écrit dans sa lettre aux Romains, « Car tous ont péché, et la conséquence, et sont privés de la gloire de Dieu, de la présence glorieuse de Dieu. » Donc l'humain ne peut plus vivre cette proximité à cause du péché. Le péché est un obstacle à l'immanence de Dieu. Et c'est Ésaïe au verset 59, versets 1 et 2, qui écrit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et je rajouterai encore ces mots, et qui l'empêchent de vous aimer, pour que cet amour puisse pleinement se manifester et vous bénir. Nous ne pouvons pas bénéficier de l'immanence de Dieu à cause du péché. Dieu continue de nous aimer, mais nous ne pouvons pas, nous humains, profiter de cet amour parce que le péché est un obstacle, parce que le péché s'oppose à la transcendance et à la sainteté de Dieu. Le péché n'a pas supprimé l'immanence de Dieu. Il nous empêche de recevoir cette immanence et de bénéficier de cette immanence, de cet amour, mais il n'a pas supprimé l'immanence de Dieu. Parce que Jésus nous dit que Dieu, malgré le péché, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc Dieu n'a pas retiré son immanence. Il continue à être là, à bénir la création, mais sa créature, à cause du péché, est séparée de lui. Le troisième point, c'est l'immanence dans le Nouveau Testament. L'immanence dans le Nouveau Testament. Et la première chose qu'on peut dire, c'est que Jésus-Christ est la manifestation suprême de l'immanence de Dieu. Jésus est la manifestation suprême de l'immanence de Dieu. Et on lit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1er, alors que j'ai un trou, que Joseph réfléchit pour répudier Marie qui est enceinte. Et il veut donc la répudier secrètement et un ange vient lui parler. Un ange vient lui parler et à un moment donné, il nous est dit, tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Jésus a aussi un autre nom, Emmanuel, qui est donné ici. Et ce nom, par son sens, Dieu est avec nous, montre que Jésus en lui-même incarne l'immanence de Dieu à son plus haut degré. On a parlé avant du berger, l'image du berger dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament aussi. Jésus va reprendre l'image du berger. Dans Jean, chapitre 10, Évangile de Jean, chapitre 10, vous pouvez relire ça à la maison. Jésus se présente comme étant le bon berger. Je lis pour vous Jean 10, versets 10 et 11. Jean 10, versets 10 et 11. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est une information importante qui vient ici se rajouter à l'image du bon berger dans l'Ancien Testament. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus-Christ est venu à cause de l'immanence de Dieu, à cause de l'amour de Dieu. Et Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Il est venu pour ôter le péché, ce qui nous sépare de l'immanence et de l'amour de Dieu, qui empêche cet amour d'entrer en nous et de nous bénir. Eh bien, Jésus est venu enlever le péché. Et pour ça, il est allé jusqu'à la croix. Et lui, le Dieu transcendant, ce n'est pas un petit Dieu qui est venu. C'est le Dieu transcendant qui est venu, qui s'est dépouillé lui-même, qui a accepté de laisser sa gloire de côté pour venir s'humilier, venir au milieu des hommes pécheurs. Il a accepté d'être humilié, d'être outragé, d'être calomnié, d'être rejeté et d'être cloué sur une croix à cause du pardon de nos péchés. C'est juste impressionnant. Et c'est Paul qui écrit dans sa lettre aux Romains, il écrit « Et Dieu a prouvé son amour, son immanence à notre égard, en ce qu'il est mort sur la croix pour sauver des pécheurs. Le bon berger a donné sa vie pour nous ramener à lui et nous permettre de vivre avec lui. L'immanence de Dieu est donc à l'origine de notre salut. Et cette immanence de Dieu a coûté très cher à Dieu. Et dans l'œuvre que Jésus a accomplie, nous avons lu avant dans ces paroles de Paul, où il présente Dieu, il dit « Il y a un seul Dieu et un seul Dieu et Père de tous. » Et par son œuvre à la croix, Jésus est allé plus loin que l'Ancien Testament. Il nous a apporté une relation beaucoup plus profonde et plus intime que n'avaient Adam et Ève, et que ne pouvaient l'avoir tous ceux qui participaient à cette première alliance. Jésus, en mourant sur la croix, nous a unis de manière intime avec Dieu. Il nous a unis en Dieu. Il nous a pris avec lui. Et comme le Père et le Fils sont un, nous aussi, aujourd'hui, nous sommes un avec eux. Et il a fait de ce grand Dieu transcendant, il a fait de lui notre Père, qui nous est favorable, qui est là pour nous soutenir, pour nous encourager, pour nous conduire. Et Jésus a fait en sorte que ce grand Dieu tout-puissant soit avec nous. Même si le monde est contre nous, même si Satan s'acharne contre nous, mais le Dieu transcendant qui est au-dessus de tout est avec nous, de notre côté. C'est dans Éphésiens justement, Éphésiens 2, versets 17 et 18, où Paul écrit, en parlant de Jésus, « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. » Donc là, il est question du peuple, de nous païens, de ceux qui ne sont pas juifs. « Et la paix à ceux qui étaient près. » Là, il parle du peuple juif. Mais les deux étaient séparés de Dieu. « Car par lui, donc par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, nous avons, les uns et les autres, les juifs et les non-juifs, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons accès auprès du Père dans un même esprit et nous sommes de nouveau au bénéfice de l'immanence et de l'amour que Dieu a pour nous, un amour immense, une immanence immense qui dépasse tout ce que nous pouvons concevoir et qui n'a rien à voir avec l'amour humain que nous avons dans nos têtes. Alors on va maintenant arriver à la conclusion. Quel est l'impact de l'immanence de Dieu dans notre quotidien ? Qu'est-ce que ça a comme impact dans ma vie personnelle de savoir que Dieu est un Dieu immanent qui est proche de moi, qui m'aime par-dessus tout. Et Paul, dans Éphésiens, justement, dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, quand il commence son chapitre 4, alors qu'il a exposé le salut que Jésus nous a accordé, il a exposé notre position, notre union aussi. Les juifs et les non-juifs ne forment plus qu'un seul peuple. On est tous unis en Christ. Eh bien, il va dire, en conséquence, à cause de ça, il va dire, « Je vous encourage donc, » c'est la conclusion, c'est la suite, « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. »
se conduire d'une manière digne.
La présence d'un Dieu saint en nous nous appelle à la sainteté. Et Dieu veut faire cette œuvre en nous, et il va la faire. Il faut simplement que nous le laissions agir, que nous le laissions conduire pour honorer ce Dieu qui nous a tant aimés. Et en même temps aussi, il nous appelle à l'humilité, la douceur entre nous, la patience entre nous aussi, à nous supporter les uns les autres entre nous. Ça aussi, c'est une manière digne, parce que si je ne suis pas humble, si je ne suis pas doux, si je ne suis pas patient, si je ne supporte pas mon frère, ma sœur qui est là dans l'Église avec moi et qui est au bénéfice de l'amour de Christ comme moi, l'unité ne pourra pas se manifester entre nous et nous ne pourrons pas conserver l'unité. Et nous avons besoin d'humilité, j'ai besoin d'humilité, parce que l'orgueil est toujours là. On veut toujours être plus grand que les autres, je veux toujours être plus grand que les autres. Je suis impatient, je manque de douceur, et je ne supporte pas l'autre qui est différent de moi. C'est présent en chacun de nous, je ne sais pas si, en regardant vous-même, je pense que vous devez le ressentir aussi. La deuxième chose, deuxième impact de l'immanence dans notre quotidien, c'est que nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ne nous laissons pas écrasés par l'ennemi, ne nous laissons pas culpabiliser par l'ennemi. Des fois, quand on chute, quand on tombe, et ça arrivera encore malheureusement dans notre vie chrétienne, on n'est pas encore au ciel. Des fois, l'ennemi nous culpabilise et nous fait croire qu'on est indigne de venir auprès de Dieu, de nous approcher de lui. Et quand on regarde à nous, c'est vrai que quand on regarde à nous, le péché est bien présent. Et cette présence pourrait nous empêcher de nous approcher de Dieu. Mais il faut toujours nous rappeler l'immanence de Dieu et l'amour de Dieu. Et l'immanence de Dieu est allée au bout et a réglé le problème du péché par le sang de Jésus qui a coulé. Jésus efface mon péché. Et je peux toujours revenir à lui pour lui demander pardon. Je peux toujours revenir à lui, mais il veut que je reste avec lui. Parce qu'il a payé le prix de mon péché. Il m'a libéré, il a effacé mes péchés. Et le péché n'est plus un problème pour suivre Jésus, car son immanence et son amour est là. Je ne sais pas où tu en es ce matin dans ta relation avec Dieu. Est-ce que peut-être tu es peut-être loin de Dieu et tu n'oses pas t'approcher de lui parce que ton péché t'écrase? Parce que peut-être que dans ta tête, tu te dis « mais je ne suis pas digne de venir à Jésus avec tous les péchés, toutes les mauvaises pensées qui sont en moi ». Alors ce matin, Dieu te dit, je t'aime et je suis mort pour toi. Approche-toi de moi au nom de Jésus. Viens, repens-toi et viens recevoir le pardon. La porte est ouverte, ne restons pas dehors. Est-ce que tu es dehors peut-être encore ? Est-ce que peut-être que tu ne connais pas encore Dieu? Parce que tu as peut-être peur, parce que ton péché te sépare de lui et tu as peur, tu ne vois en lui que le Dieu transcendant qui te juge. Regarde au Dieu immanent, au Dieu plein d'amour.
et viens à lui. Repens-toi et laisse-toi aimer par Dieu. Laisse-toi sauver par Dieu. Et le dernier point, quel impact l'immanence de Dieu a dans notre quotidien? La vie n'est pas toujours facile. Vous êtes d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Presque tout le monde. Bon, les autres, ils sont sûrement bénis. Ils ont une bénédiction particulière. Mais en tout cas, la vie n'est pas facile. Et tôt ou tard, nous subirons des difficultés. Il y aura même des moments avec des grosses difficultés. Même des moments où on sera vraiment au fond du trou. Où on doutera même, peut-être, de l'amour de Dieu. Et là, il est important, quand on est au fond du trou, qu'on n'a plus de force, qu'on n'arrive plus à rien faire, à rien produire, qu'on n'arrive plus à produire une œuvre, parce que souvent c'est ce qu'on veut faire, pour se rassurer, il faut qu'on produise une œuvre pour se rassurer par rapport à Dieu. Mais des fois, quand on est au fond du trou, on n'a plus de force, on ne peut même plus bouger. Et là, se rappeler de l'immanence de Dieu, de se rappeler que Dieu nous a aimés, qu'il est avec moi, même quand ça ne va pas, même quand je suis au fond, au plus fond, au plus bas, au plus bas, Jésus est là. Et c'est Jésus qui, à la fin de l'évangile de Matthieu, nous donne cette parole encourageante où il nous dit, et voici, je suis avec vous jusqu'à demain. Non, il n'y a personne qui réagit. Apparemment, personne ne réagit. Ça dérange personne, personne ne réagit. Non, non, ce n'est pas ce qu'il a écrit. Il a écrit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce qui veut dire qu'il est avec moi dans les bons et dans les mauvais jours. Son immanence est là, son amour est là pour me permettre de tenir debout. Amen. Que chacun soit encouragé par l'immanence de Dieu. On va relire ensemble le verset. Vous êtes d'accord? On va le lire ensemble. Il y a un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tout et partout et en nous tous. Amen. Que vous puissiez prendre ces paroles et vous appuyer dessus. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier encore ce matin pour ta présence, te remercier parce que tu es Dieu et que tu règnes dans les cieux. Oui, tu es ce Dieu transcendant, au-dessus de tout. Tu es le Dieu créateur qui a tout créé, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu saint qui ne supporte pas le péché. Mais tu es aussi ce Dieu immanent, ce Dieu proche de nous, qui est un père pour nous, un berger, qui veut le meilleur pour nous. Et tu es venu, tu as payé le prix pour nous arracher au péché, et tu es mort sur la croix, parce que tu nous as aimés et que tu nous veux auprès de toi. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour cette réalité que nous voulons saisir, Seigneur. Oui, tu es ce Dieu immanent, ce Dieu d'amour qui est avec nous à chaque instant. Et je te prie, Seigneur, ce matin, de nous visiter chacun, de tourner nos yeux vers cet amour, cette immanence de Dieu, et de nous laisser attirer à toi. De nous laisser aimer par toi et de venir ou de revenir à toi. Oui, Seigneur, si quelqu'un a peut-être péché ou si quelqu'un est encore dans le péché, Seigneur, amène-le à toi, conduis-le à voir ton amour, à voir ta délivrance et à se repentir, reconnaître son péché, confesser son péché et se laisser aimer, se laisser pardonner, se laisser adopter par toi en Jésus-Christ pour revenir auprès de toi, être proche de toi, être béni par ta présence. Oui, Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons soif de cette présence parce que c'est le meilleur pour nous. Même dans les difficultés, Seigneur, ta présence nous garde debout. Ta présence nous encourage, nous fortifie et nous rend inébranlables, même dans l'opposition, même dans l'affliction. Merci, Seigneur, de bénir chacun. Et nous voulons élever ton nom, te rendre gloire, te louer, t'adorer, parce que tu es merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux, transcendant et immanent. Et nous t'adorons en Jésus-Christ. Amen.